Il est 16h sur France Culture, bonjour à tous et bienvenue à chacun. Vous êtes à l'écoute des conférences du Carême protestant. Comme chaque année, ces conférences vous accompagnent pendant 6 semaines jusqu'à Pâques. Un temps de réflexion, un temps de retour à l'essentiel, un temps pour sortir de nos habitudes et de notre routine. Cette année, nous passons ce temps de Carême avec le pasteur Bruno Godelet de l'Église protestante unie de France à Neuilly-sur-Seine. Le pasteur Godelet nous invite à cheminer avec 6 personnages bibliques. Ils sont touchés dans leur existence par leur rencontre avec Jésus. Bruno Godelet nous propose une mise en récit théâtrale de ces figures de la Bible. Nous entrons dans le fort intérieur de ces femmes et de ces hommes. Nous comprenons mieux leur ancrage social et théologique. Notre culture, notre langage, nos imaginaires sont tapissés de références aux personnages bibliques. La littérature, l'histoire, les arts renvoient constamment aux héros des deux testaments et à leur aventure. L'analyse historique et l'analyse littéraire sont indispensables pour comprendre et interpréter les textes. Ces écrits nous parlent de ces héros ou des hauts faits de Dieu. Cependant, ce n'est pas la seule façon de comprendre la Bible. La lecture narrative a acquis ses lettres de noblesse depuis une 40aine d'années. Elle retrouve la saveur des figures bibliques et des récits. Plutôt que d'opposer les deux méthodes, il est bien de les combiner. C'est le libre cours que suivent nos émissions de Carême cette année. Elle donne la parole à des figures narratives des évangiles. Aujourd'hui, nous vous parlons du témoignage de Nicodème.
Je suis né dans le premier quart du 1er siècle, au sein d'une famille juive qui m'a élevé dans la pure tradition de mes pères. Dès mon plus jeune âge, on m'a enseigné la loi de Moïse, et elle est devenue pour moi une lumière sur mon sentier. En elle, j'ai trouvé le fondement de la sagesse et la source de mes délices. Je me suis consacré à son étude et à son enseignement, au point de devenir un spécialiste de son interprétation. Le titre de docteur de la loi m'a été donné. M'avez-vous reconnu ? Je suis Nicodème, le membre du Sanhédrin qui s'est rendu de nuit auprès de Jésus en toute discrétion. Oh, je sais bien que cette visite tardive a fait couler beaucoup d'encre. Quelqu'un a même écrit un livre pour fustiger les nicodémites qui n'ont pas le courage de déclarer leur foi en public. Je ne veux pas avoir l'air de me justifier, mais il faut comprendre mon époque et ma situation avant d'émettre un jugement. Surtout, il faut considérer que si je suis venu voir Jésus de nuit, c'est peut-être que je n'étais pas encore tout à fait convaincu. J'étais en effet très perplexe par l'enseignement qu'il professait dans les villes et villages de la Galilée à la Judée. Sa foi immense, sa personnalité attachante, son charisme de prophète, ses sentences et ses paraboles de sages, oui, tout cela lui donnait une dimension captivante. Mais ces remises en cause de nos traditions et de nos usages et les interprétations audacieuses de la loi qu'il professait, voilà ce qui dérangeait toute la classe dirigeante, notamment le parti des pharisiens auquel j'appartenais et celui des sadducéens qui avaient la main sur le temple. Nous faisions notre bonheur de la loi de Moïse et de nos coutumes. Aussi n'étions-nous pas prêts à ce qu'un rabbin inconnu ose tout remettre en cause. En quoi la prédication du rabbi de Nazareth pouvait-elle être captivante? Eh bien, à l'entendre, chacun comprenait qu'il était un jeune homme d'une grande bonté et d'une vraie humanité. Il regardait chacun comme un être unique, aimé de Dieu. À sa façon de parler, les plus humbles se voyaient soudain revêtus de dignité et de valeur. Mais la prédication de Jésus possédait des aspects irritants pour les chefs, particulièrement pour nous autres, les docteurs de la loi et les scribes. À ceux qui lui reprochaient de cueillir du blé ou de faire quelque chose le jour du Shabbat, il rétorquait « Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat, mais c'est le Shabbat qui est fait pour l'homme. » Quelques-uns lui reprochèrent un jour d'avoir guéri un homme à la main sèche durant le Shabbat. Sa réaction ne se fit pas attendre. « Lequel d'entre vous, s'il a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?» Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien le jour du Shabbat. Cette attitude incommodait les chefs qui le prirent alors en grippe. Mais plus ceux-ci s'échinaient à le contredire, plus Jésus se faisait provocateur, maniant les concepts théologiques de façon redoutable. Je n'étais pas d'accord avec mes collègues sur la stratégie de le prendre en défaut sur ses paroles. Cette méthode me semblait fourbe. Lui amener une femme prise en flagrant délit d'adultère, ou lui demander s'il fallait payer l'impôt à César, en sachant pertinemment, dans les deux cas, qu'il se mettrait à dos ou bien la foule ou bien l'occupant romain, voilà qui constituait, de mon point de vue, un procédé déloyal. Mais d'un autre côté, Jésus faisait tout pour provoquer les pharisiens et les sadducéens. Ne pouvait-il pas faire un peu attention les jours de Shabbat et s'arranger pour ne pas choquer la sensibilité des dignitaires? Qu'avait-il besoin de guérir les gens ces jours-là? Ne pouvait-il pas respecter après tout un jour chômé? Et puis qu'avait-il besoin de dire au paralytique guéri « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Pourquoi ne pas lui demander simplement de se lever et de marcher? Pourquoi lui faire porter son lit un jour de Shabbat? Et cette formule qu'il employait après ses soins thérapeutiques « Tes péchés sont pardonnés » n'était-elle pas une pure provocation pour les pharisiens et les sadducéens? Qui est celui-ci pour pardonner les péchés, s'offusquaient immédiatement ceux qui étaient versés dans la loi de Moïse. Non, vraiment, je me disais que ce Jésus aurait pu y mettre un peu du sien, pour au moins ne pas froisser la sensibilité des chefs religieux. Un peu de diplomatie et de demi-mesure ne nuit tout de même pas. Avec le recul, je vois bien ce qui me chagrinait. J'aurais voulu, en fait, que Jésus fût un bon pharisien. Nous nous serions alors délectés de son enseignement, notamment de son interprétation fascinante de la loi de Moïse dispensée sur la montagne, et sans que rien ne soit remis en cause sur les plans religieux et sociétaux. J'étais en colère qu'il se mette à dos les autorités religieuses parce que j'en faisais partie. Toutefois, me disais-je dans mon fort intérieur, ce message revigorant qui l'anime, ces paroles, ces signes, n'est-ce tout de même pas plus essentiel que l'observation des lois et des rituels? Comment fallait-il interpréter tout cela? C'est à partir de ce moment que j'ai envisagé de le rencontrer, afin de mieux comprendre ce qu'il disait, et qui sait, peut-être de parvenir à le raisonner. Je suis venu voir Jésus une nuit, loin des regards de mes collègues pharisiens. Là, je pensais pouvoir discuter calmement avec lui de la loi et essayer de saisir ce qui pouvait le pousser à agir de façon si provocante vis-à-vis de nous, les chefs religieux. Jésus m'a cependant littéralement pris au dépourvu en me tenant un discours qui, je le sais aujourd'hui, était probablement le seul capable de me faire sortir de ma perplexité d'alors. « Rabbi, maître, lui dis-je, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il me répondit du tac au tac. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître de nouveau, voir le royaume de Dieu? Pourquoi orienter ainsi notre conversation? Et de quoi parlait-il? Dieu n'avait-il pas fait de nous, les Hébreux, son peuple et son royaume? Et puis, qu'est-ce que naître de nouveau? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Lui demandai-je. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? En vérité, je te le dis, reprit-il, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. J'avais beau retourner ces paroles en moi, je ne voyais pas, ou du moins je n'étais pas sûr de voir où il voulait en venir. Il semblait opposer la dimension terrestre, charnelle de l'humain, avec la dimension spirituelle. « Quoi ?» me disais-je. « La création tout entière n'est-elle pas l'œuvre de Dieu ? Confesserait-il l'erreur des Grecs en opposant la matière à l'esprit ou à l'âme ? Comment cela peut-il se faire ? L'interpellai-je. Et c'est là qu'il me désarçonna totalement. « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Oui, j'étais docteur en Israël. Et alors ? Que voulait-il dire en le rappelant ? Je repartis finalement avec plus de questions que de réponses, et je fus troublé en mon esprit durant les jours qui suivirent. Je repassais sans cesse ces paroles, et me demandais pourquoi, comme docteur d'Israël, j'aurais dû connaître ce dont il parlait. Alors que je relisais sans cesse les Écritures, la lumière jaillit. Le récit de l'Exode, si fondateur pour notre religion, n'est-il pas un récit de renaissance par excellence ? Ce peuple subissant le joug de Pharaon, mis en esclavage, puis s'émancipant en traversant la mer pour entamer une vie nouvelle, n'offre-t-il pas l'image saisissante d'une renaissance ? N'est-ce pas cette possibilité de vie nouvelle que présente et signifie chaque année la célébration de la Pâque ? N'est-ce pas non plus le sens obvie de la circoncision qui renvoie à l'exigence d'échanger nos cœurs de pierre pour des cœurs de chair venus de Dieu ? Oui, me dis-je, comme docteur de la loi en Israël, tu devrais particulièrement savoir que Dieu nous appelle à noyer le Pharaon qui est en nous et à marcher avec lui en nouveauté de vie, à naître de nouveau. Bientôt, je reconnus que les Écritures, la loi, les prophètes et les sages, nous appellent à vivre une vie régénérée par l'Esprit de Dieu. Les lois, les préceptes, les usages, les traditions, les institutions ont leur valeur et leur légitimité pour l'organisation du peuple, sa sauvegarde et sa cohésion. Mais ce ne sont pas ces réalités qui nous donnent un cœur nouveau venu de Dieu. Ce cœur, c'est Dieu lui-même qui est esprit, qui le crée en nous. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître de nouveau équivaut donc à naître de l'esprit, c'est-à-dire à naître à la vie spirituelle que Dieu donne et qui découle évidemment de la communion sincère et directe avec lui. Ce n'est donc effectivement pas par la loi, mais bien par la foi qu'on trouve Dieu et la vie nouvelle. L'injonction de Jésus, il faut naître de nouveau, est un appel à retourner vers Dieu, à tirer un trait sur la vie d'esclavage que notre pharaon intérieur nous impose, à noyer ce pharaon, ce vieil homme en nous, à traverser la mer Rouge pour vivre dans la présence de Dieu et à marcher avec lui jusqu'à la terre promise qui est son royaume céleste. À partir de là, ma vie spirituelle prit un autre tour. Il me semblait être sorti tout entier de la mer Rouge. Une nouvelle naissance, me disais-je, voilà ce que tu expérimentes. Jamais je ne m'étais senti aussi proche et autant en communion avec Dieu. Je redécouvrais les Écritures et commençais à les comprendre différemment. De son côté, les affaires de Jésus ne s'arrangeaient pas avec mes collègues et les autres chefs religieux. Le bras de fer se durcissait au contraire entre eux. Mais je comprenais maintenant pourquoi Jésus ne faisait pas de compromis sur l'interprétation des Écritures. Tant qu'on en reste à la loi, elle devient suffisante en elle-même, et on ne cherche pas à atteindre l'horizon qu'elle désigne, l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même. S'en tenir à la loi, c'est rendre indépassable la malédiction qu'elle comporte, car l'essence de la loi, c'est de réprimer le mal et de punir ceux qui s'y laissent aller, c'est-à-dire nous tous, qui ne pouvons nous interdire de pécher quotidiennement. L'œuvre de la loi est de régler et de punir, non de changer les cœurs. Ceux qui s'en tiennent à la loi ne peuvent dès lors voir en Dieu qu'un juge suprême, punissant les pécheurs. L'Éternel devient une idole, celle du justicier impitoyable. Impossible pour Jésus de naître de nouveau si on en reste à une telle représentation de Dieu. Si Dieu est Dieu, s'il est le Créateur, on ne peut en effet le réduire au Dieu de cette pastorale de la peur, garante de l'ordre établi. Les pharisiens et les sadducéens enragés, ils étaient déterminés à faire mourir Jésus. « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? » osais-je demander un jour où nous étions réunis. « Es-tu aussi Galiléen ? » me répondit-on. « Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Je compris que le temps du dialogue et du compromis était révolu, et j'en fus effrayé. La suite, vous la connaissez. Jésus fut arrêté au jardin de Gethsémani pour être conduit auprès d'Anne, l'ancien grand prêtre, et de là, il fut emmené chez Caïphe, le souverain prêtre en fonction. Caïphe avait déjà dit au Sanhédrin, le parlement de l'époque, qu'il était avantageux qu'un homme seul meure plutôt que la nation tout entière périsse. Ses intentions étaient donc explicites. Jésus devait être exécuté. Contrairement aux évangélistes, je crois cependant que Caïphe et les membres du Sanhédrin pensaient vraiment que Jésus faisait courir un grand risque au peuple par ses remises en cause théologiques. Celles-ci étaient en effet susceptibles de déstabiliser les chefs et d'ouvrir la voie à des troubles sociaux qui pouvaient déboucher sur une répression sanglante. Notre peuple était perçu comme obstiné et farouche par ces Romains qui ne comprenaient rien à notre foi, à nos croyances et à nos coutumes. Tout mouvement de foule ou de protestation un peu énervée récoltait systématiquement la violence de la part des soldats romains. Le point de vue de Caïphe, il est avantageux qu'un seul homme meure plutôt que la nation tout entière, et le point de vue des chefs qui veillent à la sauvegarde du peuple. Cela ne le rend pas juste pour autant. Mais les politiques s'efforcent de trancher en faveur de ce qui leur semble pencher vers le moindre mal. Évidemment, il fallait trouver un motif pour mettre Jésus hors d'état de poursuivre sur sa lancée. Au moins vis-à-vis des Romains, qui seuls s'étaient autorisés le droit d'appliquer la peine de mort. Les témoins ne concordaient pas entre eux ou se révélaient sujets à caution. Certains juraient qu'ils l'avaient entendu dire « Je détruirai ce temple fait par la main des hommes et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main des hommes. » Caïphe demanda à Jésus « Ne réponds-tu rien contre le témoignage de ces gens ?» Et comme Jésus gardait le silence, il eut l'idée d'ajouter « Es-tu le Christ, le Fils du béni, c'est-à-dire le Messie, le roi ?» Jésus rétorqua « Je le suis ». Alors Caïphe déchira ses vêtements en signe d'indignation et accusa Jésus de blasphème. On décida de le faire comparaître devant le préfet Ponce Pilate, au motif qu'il affirmait être le Messie, le prétendant au trône de David. « Es-tu le roi des Juifs ?» questionna Pilate. « Tu le dis, » répondit Jésus. Le représentant de Rome ne pouvant admettre que quelqu'un se dise roi contre César, il décréta son exécution. On le bouscula dans les rues, en le forçant à porter l'énorme poutre sur laquelle il allait être cloué. Les gens qui avaient été touchés par le rabbi étaient stupéfaits. Personne ne comprenait pourquoi on le maltraitait soudainement. Mais nul n'osait toutefois s'opposer aux soldats et à leur brutalité. Les femmes pleuraient et se lamentaient. Ses disciples étaient introuvables. Le sombre cortège sortit de Jérusalem et arriva sur l'une des pentes du mont Golgotha, au lieu appelé le crâne. Là, ils le crucifièrent et hissèrent sa croix au milieu de celle de deux malheureux qui venaient eux aussi d'être suppliciés. Son agonie et celle des hommes qui étaient crucifiés avec lui n'en finissaient pas. Avec Joseph d'Arimathie, un autre notable devenu lui aussi disciple du maître en secret, par crainte des autres chefs, nous assistâmes à ce drame de loin. Enfin, Jésus poussa un cri et expira. Joseph se rendit auprès de Pilate et lui demanda la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate le permit. Il le prit donc, et je vainquis moi-même ma peur en rejoignant Joseph et les femmes qui avaient suivi Jésus jusqu'au pied de sa croix. Joseph possédait un sépulcre neuf dans le jardin voisin. Nous y déposâmes le corps de Jésus. Ayant apporté avec moi un mélange d'aromates, nous le disposâmes sur le corps du maître, puis nous l'enveloppâmes avec des bandes de tissu. L'heure du Shabbat et de la préparation de la Pâque arrivant, nous roulâmes la lourde pierre qui scellait l'entrée du tombeau, puis nous rentrâmes dans la ville. Au matin du troisième jour, les femmes sont allées au tombeau aux premières lueurs, bien décidées à rendre à Jésus les derniers hommages. Or c'est là, devant le tombeau, que tout s'est éclairé d'un jour nouveau, et que l'espérance de la vie en Dieu, que nous, pharisiens, annoncions depuis longtemps, est devenue l'espérance primordiale pour tous les disciples de Jésus. Certes, le mot « résurrection » peut prêter à confusion. Il véhicule l'image du défunt qui reprend vie et retrouve le cours de l'existence qu'il menait avant la mort. Pris en ce sens, la résurrection est une sorte de guérison de la mort. Aux Sadducéens, qui interprétaient ainsi le mot « résurrection » pour le rejeter aussitôt, Jésus rappela un jour avec force que ce n'est pas littéralement, mais spirituellement qu'il faut penser la résurrection. En effet, alors que les Sadducéens s'échinaient à démontrer par un cas de figure invraisemblable que la résurrection rendrait insoluble la situation des frères ayant eu durant leur vie la même épouse, Jésus répondit « Vous êtes dans l'erreur, car vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Jésus ne comprenait nullement la résurrection comme le retour à la vie corporelle et terrestre d'avant la mort, mais bien plutôt comme une mutation de notre être vers un mode d'existence spirituel, comme c'est le cas pour les anges dans toutes les mythologies. Plaquer sur la vie spirituelle les représentations de la vie terrestre n'a dès lors aucune pertinence. Et il n'y a pas davantage de sens à prendre au pied de la lettre les mots « résurrection », « transfiguration », « ascension » ou « paradis ». Chacun de ces mots s'efforce d'exprimer à sa façon l'espérance de la vie en Dieu, par-delà l'existence présente. En somme, on peut dire que la vie spirituelle que l'Esprit de Dieu crée en nous, lorsqu'il nous fait naître de nouveau, débouche sur la vie éternelle. Et c'est pourquoi la foi en Dieu inclut l'espérance qu'il ne nous a pas créés pour le néant, mais pour être avec lui. C'est cette foi et cette espérance qui ont pris corps au matin de Pâques, faisant de chaque disciple de Jésus un membre du corps du Christ qui est son Église. Mais cela, c'est un autre docteur de la loi, Paul, l'apôtre des gentils, qui vous en parlera mieux que moi. Très chers frères et sœurs, que l'Esprit qui fait naître de nouveau soit avec vous tous. Et puisque Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, je vous transmets la bénédiction d'Aaron pour les fils et les filles de mon peuple, afin qu'elle repose aussi sur quiconque croit en Jésus. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.
Ainsi s'achève cette quatrième conférence du carême protestant. Aujourd'hui, le témoignage de Nicodème. Merci à Bruno Godelet, pasteur de l'église protestante unie de France à Neuilly-sur-Seine. À la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Philippe. Le carême protestant est coordonné par Brigitte Iselin, Antoine Sédoux et le pasteur Nathalie Chaumet. Présentation Olivier Betty pour le service radio de la Fédération protestante de France. Vous pouvez commander le texte d'aujourd'hui en écrivant au 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris. Pour plus de renseignements, je vous invite à surfer sur carême-protestant.org. Dimanche prochain, la cinquième conférence du carême protestant sera consacrée au témoignage de Paul. À suivre sur France Culture, le carême catholique, en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Beau dimanche à tous et à chacun. Thank you.